en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'Association des officiers de réserve de la Marine nationale, l'ACORAM, fondée en 1926, organise régulièrement au long de l'année des conférences. Au début de l'année 2007, précisément le 8 février 2007, c'est notre collaborateur Bertrand Gallimard Flavigny, capitaine de corvette de réserve, qui a pris la parole. Bertrand Gallimard Flavigny a effectué de nombreux reportages en Afrique et au Moyen-Orient. Il est aujourd'hui chroniqueur de bibliophilie dans le magazine du bibliophile et sur Canal Academy. Il est également l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels un livre sur Les chevaliers, hommes de fer et de foi, paru dans la collection Gallimard Découverte, et un autre, toujours dans cette même collection Gallimard Découverte, sur la Légion d'honneur. En 2006, il a fait paraître un livre sur la fondation de l'Ordre des Hospitaliers, autrement dit l'Ordre de Malte, livre paru chez Perrin et auquel Canal Academy a consacré une émission Un jour dans l'histoire. Spécialiste de la mer et de la chevalerie, nul mieux que Bertrand Gallimard Flavigny ne pouvait évoquer Malte, le roi et la mer, titre qu'il a donné à sa conférence devant les officiers de réserve de la Marine nationale. Cette conférence a été enregistrée sur place dans les conditions du direct.
Monsieur le Président, Excellences, puisque j'en vois une qui arrive, messieurs les officiers généraux et chers camarades. Je pense que la plupart d'entre vous, ou au moins un grand nombre d'entre vous, a vu dans le hall d'honneur de l'école navale une plaque en marbre, qui est ainsi libellée. Je vous la lis. À la mémoire des nombreux chevaliers de l'ordre souverain et militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, qui ont servi dans les rangs de la marine française, et en particulier, Régent de Bidou, le chevalier de Villegagnon, Léon Strozzi, Philippe de Poincy, le chevalier Paul, François de Neuchèze, le chevalier de Valbel, le marquis de Nesmont, le maréchal de Tourville, Roland de la Gadissonnière, le comte de Grasse, le bailli de Suffren de Saint-Tropez, ou de Suffren de Saint-Tropez, suivant que l'on soit du Ponant ou de la Méditerranée. Et en dessous de cette liste, cette indication, don de l'Association française des membres de l'Ordre de Malte, successeur des trois vénérables langues de Provence, d'Auvergne et de France, 1966. Cette liste seule nous donne déjà une idée de ce que pouvaient être les liens entre l'ordre et la royale. Leur histoire est intimement liée, surtout à partir des 16e et 17e siècles. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler les origines des hospitaliers. Les chroniques laissent entendre que lorsque les croisés délivrèrent le tombeau du Christ en 1099, il y avait là des moines vêtus de noir qui soignaient déjà les malades. On dit encore que vers 1045-1050, des marchands venus d'Amalfi, en fin de compte des marchands d'Amalfi certes, mais de Constantinople, ce qui change toutes les données, avaient installé un hôpital à Jérusalem pour soigner les pèlerins qui arrivaient donc dans la ville sainte. Mais en fin de compte, aucun texte ne nous est parvenu pour nous indiquer comment survécurent les responsables de cette fondation. Nous savons en revanche que la concession sur laquelle elle fut construite correspondait à l'emplacement de la maison de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et celui-ci était considéré comme un prophète, petit prophète certes, mais respecté par les musulmans, ce qui arrangeait bien les choses. Les Amalfitains, eux, avaient d'abord fait bâtir une église, Sainte-Marie Latine, un monastère et deux hospices. On appelait ça un xenocotium, ou maison des étrangers. Celui des femmes était dédié à Sainte-Madeleine, celui des hommes fut placé d'abord sous la protection du bienheureux Jean Élémon, qu'on appelait aussi Saint-Jean le Monnier ou le Miséricordieux, puis sous celle de Saint-Jean-Baptiste, qui sera le patron de l'ordre. Et l'administration des centres fut confiée à des laïcs, et notamment à un certain Gérard, qui serait né à Martigues en 1050, on ne sait pas très bien. Les Italiens nous disent qu'il est forcément né à Amalfi, la querelle dure depuis très longtemps, mais nous sommes français et donc il est bien né à Martigues. Et ce personnage de Gérard, qui fut proclamé bienheureux, est à l'origine donc de cette congrégation. Il viendra donc par une bulle du pape de Pascal II en 113, un ordre religieux, exempt de l'Église, c'est-à-dire soustrait à l'autorité des évêques. Ce texte précisait encore que tous les biens, toutes les charges ou possessions de l'ordre, l'un ou l'autre côté de la mer, en Asie ou en Europe, anciens à venir, lui étaient définitivement acquis. Elle assurait aussi à son supérieur, donc le frère Gérard, le droit de désigner de façon indépendante et autonome ses successeurs, sans l'intervention d'aucune autre autorité ecclésiastique ou laïque. Et ce document est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Malte, où on peut la voir si on séduit Madame le Conservateur. La publication de cette bulle suscita un afflux de donations en faveur de l'ordre qui créa ainsi de nouveaux hospices, dont toute la Terre Sainte, qui était alors dépourvue d'un établissement sanitaire. Les pèlerins comme les habitants du pays étaient accueillis sans aucune distinction. Mais l'ordre devait subir une transformation qui devait le marquer pour le reste de son histoire, en ajoutant des fonctions militaires aux tâches religieuses et hospitalières. En effet, à peine une vingtaine d'années après la prise de Jérusalem, une protection armée pour les malades et les pèlerins et contre les attaques des musulmans s'avéra absolument nécessaire. Bon, bien sûr, il y avait des soldats postés dans la ville et ses environs, mais en 20 ans, les dispensaires avaient été multipliés et se trouvaient sans défense contre les attaques de bandes locales. On se déplaçait qu'en groupe. Les patrouilles étaient limitées, car les hommes n'étaient pas si nombreux. Il faut savoir que les croisés, une fois avoir délivré le tombeau du Christ, étaient repartis pour la plupart chez eux. En fait, si on reprend l'histoire du nouveau royaume latin, nous pouvons nous arrêter à la date de 1119, qui vit l'anéantissement de l'armée d'Antioche au cours de la bataille dite de la guerre sanguinis, autrement dit le champ du sang. Plus d'hommes, le royaume avait besoin d'armes, d'hommes, les plus chevaliers qui avaient décidé de finir leur jour à Jérusalem pour sauver leur âme, en prononçant des vœux devant le prieur de Saint-Sépulcre, furent recrutés pour reprendre le combat. C'est la raison pour laquelle l'initiative d'un certain Hugues de Pince, un baron champenois, fut accueillie avec intérêt par Baudouin II. Sa communauté, les pauvres chevaliers du Christ, aurait eu pour vocation d'assurer la police des routes afin de protéger les pèlerins. En fait, on ignore tout de son origine. Son siège était le temple de Salomon, du fond un tout moins à côté, d'où son nom de Templier. Là, vous connaissez l'histoire. Il prit pour insigne la croix sommée noire sur fond blanc, qui deviendra rouge plus tard. Cette milice religieuse avait pour but d'attaquer d'infidèles toujours et partout. Et très vite, cette milice religieuse, destinée à corter des pèlerins, participa à tous les combats contre les infidèles. Nécessité faisant loi, les hospitaliers dont les plus anciens avaient été chevaliers reprirent naturellement leur épée pour assurer les fonctions militaires, en plus des tâches religieuses et hospitalières. Nous sommes à présent vers 1120. Et ce nouveau caractère renforça encore l'autonomie de l'ordre, comme il rehaussa son prestige dans un monde particulièrement hiérarchisé, il ne faut pas l'oublier, et entièrement soumis aux lois d'Église. Cette fusion des deux aspects religieux et militaires aida à spiritualiser la vaillance militaire. On n'affrontait plus un ennemi particulier, mais les adversaires de la chrétienté. La mission militaire des hospitaliers commença réellement lorsque, en 1137, Foulque Ier, le roi de Jérusalem, leur remit le Castel Gibelin, et cette mission ne cessera plus. Les hospitaliers auront à intervenir à tout instant et partout contre tous les assaillants, ottomans, kurdes, arabes d'Égypte et du Liban et mongols. On les reconnaissait sur les champs de bataille grâce à leur oriflamme rouge à croix blanche. Et cette bannière avait été éprouvée en 1130 à la demande de Raymond Dupuy, qui fut le premier maître élu, le successeur de Gérard, ceci par le pape Innocent II. Et elle deviendra l'emblème de l'ordre sur terre comme sur mer et constitue le premier de tous les pavillons nationaux. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire des hospitaliers parce que sinon il faudrait au moins trois conférences. Donc nous allons se résumer très bref. Peut-être on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Mais il est certain que rempart de la foi chrétienne, à un tel point qu'il fut surnommé la religion, souvenez-vous de l'expression « les gaillards de la religion » ou « ces messieurs de la religion » et l'hôpital, autre raccourci pour le désigner selon sa vocation première, c'est-à-dire le soin donné aux malades et aux plus démunis, il allait traverser des siècles, malgré les difficultés et de nombreuses vicissitudes. La première fut sans doute la perte de Jérusalem en 1187, la seconde, celle de la prise de Saint-Jean d'Arc en 1291, et qui mettait donc fin au royaume latin en Terre Sainte. Et à chaque fois, l'hôpital a su poursuivre sa tâche, et c'est ce qui nous amène au sujet qui nous occupe aujourd'hui, celle de la marine. En Palestine, les hospitaliers possédaient quelques petites unités maritimes armées destinées à convoyer les pèlerins de la Provence. Le premier bâtiment connu de l'ordre est un dromon, c'est-à-dire un navire de guerre à rames d'origine byzantine. Et ce dromon transporta en 1165 le pape Alexandre III, de Montpellier à Messine. On cite encore la Comtesse, un vaisseau d'un fort tonnage commandé par le chevalier Guillaume. un document daté de 1234 évoque un commendator Navium. En 1278, la fille du vicomte de Beaumont, je ne sais pas si les parents avec M. Beaumont qui est dans la salle, embarqua un brindisi pour Acre sur la Bonne Aventure qui appartenait aux hospitaliers. Ensuite, après la chute de Saint-Jean d'Acre, les hospitaliers réfugiés à Chypre constatèrent que la ville de Limassol, qui n'était plus alors qu'un gros bourg ouvert de tous côtés, avait été saccagée par les corsaires arabes et sarrasins. Et les hospitaliers décidèrent de construire ou affréter une véritable flotte capable d'attaquer les musulmans sur mer et d'escorter les pèlerins qui visitaient les lieux saints. Bozio. Bozio est le premier historien de l'ordre à la fin du XVIe siècle, rapporte à ce propos. Bientôt, on vit sortir des différents ports de l'île plusieurs petits bâtiments de différentes grandeurs qui revenaient souvent avec des prises considérables faites sur les corsaires infidèles qui croisaient pour enlever les pèlerins. Ces prises augmentèrent insensiblement les armements de l'ordre. On bâtit depuis des galères, on construisit quelques vaisseaux et le pavillon de Saint-Jean se fit respecter. Cela servit encore à ne pas languir le courage des chevaliers et à former les plus jeunes à la guerre et à la navigation. Nous parlons déjà de la formation. Puis, nous connaissons un règlement de 1300 qui donna à l'un des dignitaires de l'ordre le titre de grand amiral. Comme vous le savez tous, un mot imité de l'arabe émir al-bar, le seigneur de la mer. Le pape Clément V autorisa en 1306 les hospitaliers armés des navires sans l'autorisation du roi de Chypre. La flotte comportait alors, outre deux galères, une fuste, c'est un bâtiment long et de bâbord marchant à voile et la rame, un galion, un bateau de charge de forme ronde et longue comme une galère avec trois mâts, et deux dromons. Selon les premiers historiens de l'ordre, Bozio, Baudouin d'Évité et Vertot, cette période vit l'essor de sa marine et cette flotte a joué un rôle important dans la conquête de Rhodes qui se déroula entre 1307 et 1310. La constitution d'une flotte opérationnelle et autonome par rapport aux armateurs génois et vénitiens fut lente. Vertot, l'abbé de Vertot, qui écrivit son histoire des chevaliers de Malte au début du XVIIIe siècle, notait par exemple que le grand maître Gozon fit construire à la fin de sa vie un môle pour la commodité des galères. Dès son élection en 1365, le grand maître Raymond Béranger mit à la mer plusieurs galères pour donner la chasse aux pirates égyptiens qui infestaient alors les côtes de Chypre. Philibert de Nayac, un autre grand maître élu en 1396, fit de même, d'autant plus que le pape Boniface IX avait lancé l'année précédente un appel à la croisade contre Bajazet, qui se solda par la défaite de Nicopolis. D'ailleurs, à cette occasion, les hospitalières pratiquèrent ce qu'on appellerait aujourd'hui une mission humanitaire d'urgence. Ils rapatrièrent en effet par mer les blessés et les firent soigner dans l'hôpital de Rhodes. Ils le firent à plusieurs reprises tout au long des siècles. Après l'effondrement des Ottomans en 1402, sous les coups de butoir de Talleyrand, l'ordre renoua avec la stratégie défensive. Et cette situation laissa le champ libre à la piraterie rhodienne qui s'en prit autant aux chrétiens qu'aux musulmans. Et les ouvrages historiques sur l'ordre passent pudiquement sur la course, pratique pourtant naturelle au cours de cette période. En Méditerranée, les protagonistes circulaient dans des zones protégées, chacun avait son espace commercial, par exemple les Rhodiens avaient le monopole de facto du commerce de bois d'Anatolie. Mais tout changea après la conquête de Constantinople par Mehmet II en 1453. Les hospitaliers devaient faire face aux obissons de la porte. Les attaques ottomanes allaient se multiplier jusqu'au siège de 1480. Et dans le même temps, ces ottomans se dotèrent d'une marine à la hauteur de leur ambition. Des 40 vaisseaux, en 1452, elle fut portée selon les recherches de Xavier de Planol à 180 unités. Durant l'hiver de 1470 à Imbros, la flotte turque apparut comme une forêt et comptait, suivant les estimations, de 300 à 450 navires. L'expédition qui devait aboutir en 1499 à la défaite des Vénitiens n'avait pas compté moins de 320 unités. Les hospitaliers n'en étaient pas là. Outre les galères Fustes et Brigantins, leur flotte comprenait encore la Grande Nef ou Carrack Sainte-Marie, deux galions, deux barques et un barquet, soit au total près de 2000 tonneaux. Elles semblaient en fait parfaitement adaptées à leurs besoins. Lorsque le pape Alexandre VI Borgia lança pour se dédouaner de sa vie scandaleuse une ligue contre les Ottomans, le grand maître de Buisson fit équiper plusieurs vaisseaux de haut bord, des galères, des galiotes et des barques armées. Bozio a donné un état de la flotte des hospitaliers en 1519. Il décrit la grande nef Sainte-Marie. Elle comptait 200 hommes d'équipage, soit une cinquantaine de plus que sur les autres unités en service à l'époque. Michel Fontenay, un historien contemporain, cite dans un article consacré à l'évolution de la flotte des hospitaliers au XVIe siècle, la découverte par Philippe Rigaud, un spécialiste de l'histoire maritime, médiévale provençale, d'un document iconographique, le Rétable de la Passion, un Saint-Maximin dans le Var, peint entre 1518 et 1520, qui a probablement laissé une image de la Sainte-Marie. C'est une caraque méditerranéenne, typique de la fin du XVe siècle, écrit-il. Sa coque ronde et puissante est renforcée de nombreuses précintes et défendue au centre par une membrure extérieure qui protège la cale de chargement. La proue se recoupe très haut en col de cygne et porte une plateforme triangulaire en caraque qui déborde au-dessus de l'étrave pour faciliter les manœuvres de l'ancre et dominer l'adversaire dans un éventuel abordage. Certaines caraques furent utilisées dans la guerre de Charles Quint contre Tunis en 1530. L'une d'elles, la Santa Ana, était cuirassée. Sans doute la première. Sa carène était revêtue de feuilles de plomb rivetées de bronze, ce qui ne garantissait pas son étanchéité. Mais ce vaisseau n'appartenait pas à la flotte espagnole, mais bien aux hospitaliers. En guise de proue, il portait une statue de Saint Jean-Baptiste. Et cette statue, ceux qui sont allés à Malte l'ont peut-être vue, est encore conservée dans la chapelle Saint-Charles de la langue anglo-bavaroise, dans la cathédrale Saint-Jean à La Valette. Cette Sainte-Anne fut souvent confondue avec la Sainte-Marie au point qu'on les appelait sans distinction la Grande Caraque de Rhodes. En fait, la tradition laisse entendre que la seconde fut perdue à Malte en 1531. Quant à la première, elle fut remplacée en 1540 par un bâtiment plus modeste. Si l'on considère les dates de mise à l'eau en 1488 et de mise à la retraite en 1540, cela porte à plus de 50 ans d'activité. Même le porte-hélicoptère de la Jeanne d'Arc de notre marine n'est pas encore parvenu tout juste à ce record de longévité. En fait, faute d'archives, nous nous appuyons sur la tradition et les écrits de Bozio. Il reste que ces bâtiments ont bel et bien existé et nous pourrions émettre l'hypothèse qu'il y eut plusieurs Sainte-Anne et plusieurs Sainte-Marie, d'autant plus que ce fut une nouvelle Sainte-Marie qui succéda à la Sainte-Anne débarquée en 1540. Il s'agissait d'un très beau navire, mais d'une portée nettement supérieure à ce qui avait été commandé, dit Bozio. Il avait été construit dans les chantiers basques de la Biscaye et pesait 825 tonneaux. Il se révéla en fin de compte inadapté aux besoins des hospitaliers, parce qu'il, par exemple, il ne pouvait pas pénétrer dans le port de Tripoli. Et il fut désarmé finalement en 1548 et remplacé par que deux galionnets d'un peu de plus de 300 tonneaux chacun. Donc en moins de 30 ans, les hospitaliers étaient donc passés de mastodontes flottants des débuts du XVe siècle aux unités de petit tonnage plus rapides, plus évolutives et plus souples d'emploi qui prévaudraient partout vers 1600. Cette évolution qui s'inscrit dans une tendance générale bien connue anticipe largement sur celle-ci pour des raisons qui sont propres à l'ordre et à son histoire. Michel Fontenay rapporte que l'ordre installé à Malte disposait d'un nombre trop important de navires. Bon, afin de les rentabiliser, l'ordre se fit transporteur. Mais, comme les chevaliers n'avaient ni goût ni talent pour réussir dans ce genre d'affaires, on comprend qu'ils s'en soient très vite lassés et qu'ils aient préféré se débarrasser de leurs énormes cargos. Passé 1550, la flotte des hospitaliers ne comptait plus de gros bâtiments, à l'exception de ceux pris aux Ottomans ou barbaresques et occasionnellement utilisés. Ce fut au contraire le règne du galion, en principe destiné au transport, mais qui eut davantage un rôle militaire. À propos de l'épandre, car nous sommes dans l'époque de l'épandre, que je ne vous raconterai pas l'épandre, rassurez-vous, je tiens seulement à préciser que si les hospitaliers ne participèrent qu'à concurrence de trois galères à cette bataille, c'est que quatre autres furent perdus en route. En juillet 1570, à la demande de Venise, le général des galères de Malte, Saint-Clément, devait aller rallier Messine, avec la capitane, la patronne Sainte-Marie de la Victoire, la Saint-Jean et la Sainte-Anne, et intégrer l'escadre commandée par Jean-André Doria, le petit-neveu du grand Andrea. Mais là, personne. Saint-Clément tergiversa, revint, repartit, ne sut pas quoi faire, et malheureusement croisa pour son malheur la route d'Olouchali, le vice-roi d'Alger. La Saint-Jean et la Sainte-Anne furent capturées. La capitaine échoua sur la tour de Monte Carlo. Seule la patronne put s'échapper et se mettre en sûreté. Saint-Clément fut traduit devant un tribunal spécial qui, l'ayant jugé lâche et incapable, le condamna à être étranglé dans la prison et son corps fut jeté à la mer. Il ne faisait pas bon perdre dans cette époque-là. Cette défaite catastrophique a eu lieu le 15 juillet 1570, plus d'un an avant les Pentes. Pour pallier cette perte catastrophique, deux galères neuves furent achetées à Messine, la Saint-Jean, une patronne, et la Saint-Pierre, qui avec la Sainte-Marie de la Victoire participèrent donc à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571. Un détail encore, pour les Turcs, cette bataille qu'ils nomment non pas Lépante mais Inébati, fut une bataille comme une autre, un peu plus désastreuse sans doute, mais rapidement oubliée. En fin de compte, l'annonce de la défaite fut reçue avec sang-froid à Istanbul, et lorsque Louchali, voyant le désastre qui avait rompu la bataille, s'est échappé vers l'île Saint-Maur, avec environ 50 galères, fut accueilli à Istanbul comme un vainqueur. Mais il n'avait rapporté qu'un seul trophée, un pavillon de Malte, qu'il avait laissé traîner dans l'eau jusqu'au Bosphore, comme on traînerait un pavillon dans la poussière. Le sultan Selim fera suspendre ce pavillon sur les voûtes de Saint-Sophie, où il n'est plus. Est-ce qu'il est à Topkapi ? On ne sait pas exactement. Plus d'une soixantaine de chevaliers avaient perdu la vie à Lépante. L'ordre se vit dans l'obligation de renforcer encore sa flotte et de maintenir ce qui restait de celle des Turcs hors de portée de l'Occident chrétien. L'ordre tenait armé un vaisseau de 60 canons, quelques chébecs et 4 ou 7 galères selon les périodes, dont 2 constamment destinés à la garde du port de la Valette. La puissance maximale de la flotte des galères de la religion fut atteinte en 1684 avec 8 unités. Mais ces galères n'étaient pas toutes semblables. Des extraordinaires avaient plus de 28 bancs et armés de 6 ou 7 hommes par rame. Les ordinaires, dites sans-cils, comptaient 5 hommes pour 26 rames en moyenne. Et la demi-galère, à 3 hommes par rame, était plus léger. Quant au brigantin, il utilisait 2 hommes par rame. Enfin, la galère magistrale, celle du grand maître, ne sortait que pour paraître en majesté des jours de fête ou de réception de hauts personnages. La première fut construite en 1551 par le grand maître de l'Ascaris Castellar et tous les grands maîtres en eurent une. La capitale, donc la galère amirale, était toujours peinte en noir. On dit souvent la galère noire. Les 6 autres galères de la région étaient entièrement peintes aux couleurs de l'ordre, alternant de longues bandes blanches avec des pressins de vermillon, mais on reconnaissait d'abord ces navires par la bannière de Gaulle à croix blanche et par d'autres pavillons. Plus tardifs, l'un portait l'image de la Vierge, l'autre celle de Saint-Jean-Baptiste. Un autre encore montrait une croix placée entre les 2 pointes d'un croissant avec cette inscription latine « Nototum in pleatorbem » pour qu'il ne remplisse pas le globe terrestre tout entier. Ce pavillon était une réponse à celui des Ottomans qui montrait un croissant surnommé de la phrase « jusqu'à ce qu'il remplace le globe terrestre tout entier ». Enfin, il était admis par les princes chrétiens que l'étendard de la religion en mer devait toujours être salué le premier. Ce qui n'a pas sans quelques difficultés de temps à autre dans les ports. Les galères devaient toujours être parées devant les mois, durant les mois où l'on pouvait sortir, munies d'équipages complets, solides, disciplinés et bien nourris. Elles intervenaient à tout moment en Méditerranée, comme durant la période rhodienne, pour assurer la protection des convois et des transports de marchandises, des bâtiments occidentaux et maintenir une sorte de police des mers. Selon les meilleurs avis, l'ordre était dans l'ensemble bien équipé, avec de bons navires étudiés pour tenir une mer aussi fantasque que la Méditerranée, car la galère trop légèrement armée pour combattre de loin permettait l'abordage. Les grands vaisseaux puissamment armés de 60 canons portaient 400 ou 500 hommes d'équipage, mais l'effectif pouvait être renforcé. Par exemple, en 1753, la Saint-Antoine, commandée par le bailli de Chambray, leva l'ancre avec 530 gens de guerre et mariniers. Clérélian Angel, ou Angel, autre historien de l'ordre, rapportait « En général, les équipages de l'ordre sont excellents, très entraînés, bien commandés, infiniment supérieurs aux Turcs qui sont mauvais marins. Mais la marine de l'ordre ne sera jamais très nombreuse et il est difficile de la maintenir en bon état. » Le noviciat du futur chevalier durait 2 ans. Outre la formation religieuse, on devait réciter le pater 50 fois par jour et communier 4 fois dans l'année. Il étudiait les statuts de l'ordre, les usages et surtout l'art maritime. Les cadets devaient devenir à la fois navigateurs, combattants, artilleurs, manœuvriers et architectes navals. Après avoir prononcé ses vœux, le chevalier devait, selon une ordonnance du grand maître Martin Garcès, donc vers 1595-1600, un service effectif de 4 caravanes, c'est-à-dire 4 embarquements, 4 années de suite sur l'une des 7 galères que comptait notamment la flotte de l'ordre. Et là, à bord, il apprenait, comme le rappelle Michel de Peyre, à sentir le vent, à manœuvrer un bâtiment et à commander un équipage. Chaque campagne débutait au mois de mai. Le caravaniste disposait d'un mètre de longueur sur le couloir en équilibre, précaire entre l'eau et le ciel, et ceci, quel que soit le temps, rapporte le bailli Jérôme Michel de Pierredon. On imagine ainsi le chevalier, très jeune, enveloppé dans un manteau, transi, ballotté, s'accrochant à une vergue, tentant d'échapper aux embruns et aussi à la puanteur générée par la chiourme. Le règlement précisait qu'il devait dormir tout habillé afin d'être toujours prêt au combat. Homme de foi et combattant, il devait surmonter tout cela. La discipline était stricte et le roi, autrement dit le capitaine, on ne disait pas encore commandant, n'hésitait pas à mettre aux arrêts les jeunes chevaliers négligents. Cet officier supérieur avait auprès de lui, pour le seconder ou pour le remplacer, un officier qui prenait le nom de patron choisi parmi les chevaliers. En dehors des combats et lors des mouillages, les chevaliers menaient joyeuse vie. Nul ne saurait leur reprocher lorsque l'on suit les combats qu'ils menaient et les conditions de vie difficiles à bord. Les chevaliers servant ceux des galères se distinguèrent à partir du milieu du XVIIIe siècle par des parements blancs sur leur habit rouge. Celui des officiers de vaisseau avait des parements noirs. Pour l'anecdote, je vous cite que les parements verts désignent les officiers des régiments maltais et des bleus les gardes du grand maître. Et aujourd'hui, les parements blancs sont réservés aux chevaliers prophètes et noirs aux chevaliers laïcs. À propos d'uniforme, le grand maître François Ximénès, 1773, avait répondu qu'il n'en connaissait pas d'autre que la croix de Malte et que chacun pouvait s'habiller à son goût. Maintenant, nous arrivons enfin dans le vif du sujet, l'origine de la marine royale. Les galères de Malte furent pendant longtemps la grande école de guerre de notre marine, écrivait à la fin du XIXe siècle l'amiral Jurène Lagravière. Cette affirmation exprime toute admiration qu'avait, et a encore aujourd'hui, la royale vis-à-vis de ces messieurs de Malte, comme les appelait Jean de la Barande. Dans son avis au roi, le 13 janvier 1629, le cardinal de Richelieu, alors qu'il avait réuni tous les pouvoirs entre ses mains et s'est donné le titre de « grand maître, chef et surintendant de la navigation de commerce en France », résuma sa politique entreprise depuis quelques années. « La première chose qu'il faut faire est de se rendre puissant sur la mer qui donne entrée à tous les états du monde. » Il convenait donc de créer une marine de guerre permanente. 4 ans plus tôt, le ministre avait déjà fait évaluer les besoins d'une telle marine pour la France, c'est-à-dire 40 galères et 10 vaisseaux en Méditerranée et 40 vaisseaux dans l'Atlantique. À partir de 1630, les effectifs avoisinèrent les 40 vaisseaux, rappelle Étienne Thiermite. 6 ans plus tard, la couronne d'environ 2000 tonneaux était considérée comme le prototype du vaisseau de ligne et elle causa plus de déboires que de satisfaction. À l'époque, il n'existait pas de corps d'officiers de marine. L'amiral accordait des lettres de commission au capitaine, choisies selon des critères mal définis. Au Levant, on puisait beaucoup dans l'ordre de Malte et dans la noblesse provinciale, au Ponant dans la marine marchande, précise encore Thiermite, qui ajoute « Ces officiers étaient recrutés d'une manière définitive, en ce sens qu'ils figuraient sur les états de la marine, mais ils n'étaient pas employés en permanence et dans l'intervalle de leur campagne, pouvaient naviguer au commerce, voire passer l'étranger, bien que cela leur fût interdit par les règlements des 27 mai, 5 et 17 août 1624. Or, Richelieu aurait souhaité reconstituer un véritable corps permanent d'officiers hiérarchisés et doté d'un statut avec des règles d'avancement, mais il ne put y parvenir. Il n'y avait pas alors de grade au sens moderne du terme, seulement des emplois. À Malte, en revanche, les caravanes permettaient de disposer d'un personnel composé d'officiers aguerris et de jeunes chevaliers prêts à servir à tout moment. Un tel système ne pouvait que séduire Richelieu. Bien sûr, il serait difficile d'affirmer qu'il prit exactement modèle sur la marine de Malte pour constituer la marine royale française, car il n'existe aucun texte. Il reste que la royale doit beaucoup à la religion. Charles de la Roncière, dans l'histoire de la marine française, cite une lettre du ministre Louis XIII à son oncle, le commandeur de la Porte. C'est une lettre datée du 30 juin 1627. « Je désire plutôt de gros mariniers vaillants, nourris dans l'eau de mer et la bouteille, que des chevaliers frisés, car ces gens-là servent mieux le roi. » Sans doute, mais il leur préféra finalement des gentilshommes qu'il pensait davantage contrôler. Les Maltais seraient-ils de cela? Amador de la Porte était l'oncle maternel du cardinal. Il était entré dans l'ordre en 1584. Il était écouté de son neveu, qui fit largement appel à lui pour constituer le premier état-major de la royale. Les rapports entre la marine royale et l'ordre étaient déjà fortement établis. Sous Charles VIII, Le chevalier est présent de Bidou. Je vous rappelle ses dates, 1448-1528. Commandé les galères du port de Marseille. Sous Louis XII, il reçut la charge de général des galères. C'est dans cette fonction qu'il organisa en 1522 l'expédition pour tenter de dégager Rhodes assiégé. Le chevalier Bernanos de Beau devint le commandeur des galères armées en Provence contre les Turcs sous le règne de François Ier. Rappelons le nom de Léon Strozzi qui remplit la charge du lieutenant général des galères. Et lorsque Richelieu rassembla les premiers éléments de la flotte royale, il en confia le commandement à deux Maltais, le commandeur Philippe Desgouttes et le bailli de Forbin Lambsec, l'oncle du chevalier de Forbin, le futur amiral du Siam, qui lui n'était pas membre de l'ordre. Le bailli de Forbin reçut une charge équivalente à celle de lieutenant général des galères. Puis en 1624, il étudia avec Richelieu toutes les dispositions nécessaires aux galères. De 13, leur nombre passa alors à 30. Mais ces deux excellents marins furent écartés, jalousés sans doute par le comte d'Harcourt, commandant en chef de la flotte française, et par Sourdis, chef de conseil du roi en armée navale. Ils demeurèrent, selon l'expression d'Edouard Taimite, des sous-ordres, comme d'ailleurs le commandeur Isaac de Razilly, qui fut aussi l'un des conseillers parmi les plus écoutés de Richelieu et contribua à la modernisation de la marine. Ce fut probablement le commandeur de la Porte qui signala le chevalier Paul à Richelieu. Elle lui confia le commandement du Neptune, le chevalier Paul. Jean-Paul de Saumur, 1598-1667. Il n'était pas le fils d'une blanchisseuse et peut-être pas du marquis Paul de Forcé de Pils, gouverneur du château d'Aix. De nombreux auteurs l'ont dit, l'ont écrit et répété, et moi aussi d'ailleurs. Et le premier, le capitaine de vaisseau Georges Bergouin, secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences, lettres et beaux-arts de Marseille, disparu l'année dernière et qui était membre de la Coram, a découvert que le chevalier Paul n'était pas un enfant naturel. Il met en évidence la filiation légitime d'un officier issu d'une famille catholique et bourgeoise du Dauphiné, le capitaine Elsias Samuel et demoiselle Jeanne Riche, mariée à Marseille. D'ailleurs, le conseil du grand prieuré de Saint-Gilles, au vu des pièces produites, conclut en effet le 14 novembre 1633 qu'il était digne d'être reçu autant au rang des frères servants d'armes et de s'en aller au cours d'un Malte. S'il avait été bâtard, il n'aurait pas pu rentrer dans l'ordre de toute manière. Quant à la transformation de son patrimoine Samuel en Sommel ou en Sommeur, il aurait été destiné à éviter des allusions sur une lointaine origine juive. Il se fit d'ailleurs toujours appeler capitaine Paul, mais il fut anobli sous le nom de Sommeur. Et c'est au cours d'un affrontement avec les Barbares qu'il remplaça le commandant de l'un de ses navires tué dans un abordage, aussi distingué par le grand maître Antoine de Paule. Il fut alors admis comme chevalier de grâce en 1637. Il fut nommé commandeur le 21 janvier 1651 par le grand maître de Lascaris. Sa carrière fut éblouissante. Louis XIV l'anoblit et, honneur insigne, lui rend des visites à la Cassine, sa propriété de Toulon. Il mourut lieutenant du grand amiral de France en 1667. Et si nous, dans la royale, le nom de chevalier Paul nous est familier, il a quelque peu été oublié dans l'histoire. Selon l'un de ses biographes, l'abbé d'Aric, cela tient à ce qu'il a combattu essentiellement en Méditerranée contre les Espagnols et les Barbaresques. Sa gloire eût été plus durable, sa renommée plus éclatante, s'il avait eu les Anglais pour adversaires. Son presque contemporain, Jean-Baptiste de Valbel, ne pouvait le souffrir. Surnommé Fier Artaban, puis le Tigre, ce personnage héroïque, admiré par Madame de Sévigné, était peu commode. Il appartenait à une maison qui n'avait d'autre tradition que celle de la marine, et donnait de nombreux fils à l'ordre. Jean-Baptiste se trouvait en compagnie de 10 cousins. Rejeté, proscrit à cause de ses fautes successives, il parvint sans cesse à retrouver les bonnes grâces du roi et du grand maître grâce à ses exploits maritimes. Par exemple, en 1668, il mit en fuite 36 galères ottomanes devant Malte et il se distingua également lors de les guerres de Hollande. François-David Amfreville, Jean d'Estrées qui fut fait maréchal de France, Alain-Emmanuel de Couette-Legon qui devint aussi maréchal de France, François les Rousseaux de Château-Renaud, également maréchal et relevé de ses vœux, François-Joseph de Grasse-Tilly appartenait aussi à l'ordre. Le chevalier Damien de Martel avait reçu l'emploi de capitaine de vaisseau en 1637. Il devint chef des cadres en 1642, puis lieutenant général en 1656. Son sens de la discipline laissait, paraît-il, à désirer. Durant la campagne de 1672, il entra dans un violent conflit avec l'amiral d'Estrées qui l'accusa d'avoir déshonoré la nation. Ce qui était vrai, mais ne devait pas se dire. Damien, du coup, goûta la Bastille, ne reçut ensuite plus aucune affectation et mourut en 1681. Anne Hilarion, Constantin de Tourville, était aussi membre de l'ordre. Il y était entré comme chevalier de minorité, confirma ses vœux en 1660, entreprit son apprentissage l'année suivante et combattit les barbaresques. Après la mort de son frère aîné, le futur maréchal demanda à être relevé de ses vœux pour se marier et assurer la lignée. Mais il porta toujours la croix sur son habit. Il fut reçu dans la royale avec l'emploi de capitaine de vaisseau. Conseiller écouté de Colbert, il est à l'origine de notre marine moderne, technicien et bon architecte naval, et dit à ses remarques à son chapelain, le père Host, un jésuite, qui rédigea le premier grand traité de technique navale, l'art des armées navales, publié en 1687. Et Saint-Simon devait dire de lui, « Cet amiral possède en perfection toutes les parties de sa profession, il est plein de ressources pour tout ce qui peut arriver en mer. » Entre-temps, l'état de la royale s'était dégradé. Lorsqu'en 1660, Colbert s'intéressa à la marine, sans charge officielle, la situation n'était guère brillante. Il ne subsistait que 18 bâtiments de guerre et une dizaine de galères, la plupart dans un état médiocre. Mais, en 20 ans seulement, le ministre Louis XIV, avec l'aide de son fils le marquis de Senglet, associé à toutes ces décisions à partir de 1672, du comte de Vivonne, général des galères depuis 1669, et de Nicolas Arnoux, intendant chargé d'administration des galères depuis 1665, et réussit un redressement spectaculaire. Son but était de posséder une flotte de 120 vaisseaux, dont 72 de 50 canons. En 75, tous les bâtiments qu'avait souhaité Colbert étaient à flot. Étienne Thiermite fait remarquer que personne ne mettait en cause l'utilité des galères, dont le nombre fut multiplié par 4 entre 1661 et 1690. D'ailleurs, il cite la remarque du ministre à l'intendant Nicolas Arnoux, « Il n'y a point de puissance qui marque mieux la grandeur d'un prince que celle des galères et lui donne plus de réputation parmi les étrangers. » Et Arnoux de répondre, « Le roi est, quand il le voudra, sans combattre, par le seul nombre de ses galères, maître absolu de la Méditerranée, lui en coûtera, mais je ne crois pas qu'il puisse faire dépenses plus utiles pour sa grandeur. » Considérant la marine de Malte, Senglet estima qu'elle pouvait être un exemple à suivre. Il désigna donc en 1668 Guillaume Clément de Vivier comme chargé de mission pour le duc de Vivonne et Arnoux. Vivier s'arrêta à Malte, y croisa le chevalier Gabriel d'Héméricourt et fut reçu par le chevalier Jacob de Foule d'Écrinville, qui l'invita 3 jours de suite à bord de la Madeleine. Vivier put aller partout, interrogeant le monde, consultant les papiers des bords, et tout ceci, nous le savons, grâce à son mémoire, contenant quelques 200 pages, qui est conservé aux archives nationales et resté inédit. Si les galères sont moins nombreuses que celles de l'ennemi, elles sont plus fortes et mieux armées. Les équipages sont à la hauteur, manœuvrent bien avec hardiesse. Seul défaut, l'instabilité des cadres. Le général et les capitaines des galères changent tous les 2 ans, à cause des frais énormes de leur entretien à leur charge. Les bas officiers sont les seuls éléments stables. Ils sont tous forts et braves, ce que confirme Michel Fontenay. La principale force des galères de Malte, au dire des contemporains, c'était la remarquable qualité de leur encombrement. Bas officiers et personnel de maîtrise étaient des professionnels éprouvés, soit recrutés dans toutes les nations maritimes de la Méditerranée, soit formés par l'ordre dans la population indigène. Vivier a constaté que les équipes étaient bien traitées, bien entraînées et rarement malades. Il est vrai qu'à l'époque, le grand maître était Nicolas Cotoner, 1663-1680, un ancien marin qui inspectait souvent les bâtiments. En 1685, Vivier remit un autre rapport à Senglet. Ce mémoire sur les statuts des galères, qui est aussi un manuscrit aux archives nationales, resté un manuscrit aux archives nationales, donne un détail important. La religion est toute soumise aux ordres du roi et il semble que sa majesté n'a qu'à lui faire connaître sa volonté pour l'obliger à faire tout ce qu'elle peut souhaiter. Mais, très docile sur les questions importantes, le grand maître, qui était Carafa, est terriblement pointilleux sur le salut du pavillon. Ça rejoint mon propos. On comprend l'importance que Seigneur a attachée à la connaissance des règlements de Malte. L'ordre, pour qui la course était une nécessité vitale, avait tout fait pour donner à son corps de galère toute la perfection possible. C'est ainsi que, fort de l'avis de Seigneur, de nombreux jeunes marins français, sans être chevaliers, se rendirent à Malte afin d'y faire leur classe. L'état de la marine de 1690 indique que sur les 15 galères du Ponant, 11 étaient commandées par des chevaliers de Malte. Dans la liste générale des galères au 1er janvier 1699, dénombrant 32 galères, on remarque parmi les commandants 18 chevaliers de Malte. Ils étaient 24 en 1692-94 pour 40 galères. Et les 6 galères servant au Ponant en 1999 étaient toutes commandées par des Maltais. Il existe un état de la marine de 1684, entièrement calligraphié, contenant aussi des appréciations sur les officiers destinés à Louis XIV. Et cet ouvrage, relié aux chiffres du souverain, prouve l'intérêt qu'il avait pris par la marine. Colbert avait en effet envisagé de former des jeunes gens au métier de la mer en les embarquant sur les vaisseaux. Ce ne fut guère concluant. Il revint à la charge en créant, en 1683, trois compagnies de garde marine, à Brest, à Rochefort et à Toulon. Le livre 7e de l'ordonnance de 1689 précisait le programme des études à terre et à bord pendant les embarquements, et jusqu'à leur suppression en 1786 par le maréchal de Castres, ces compagnies de garde constitueront la pépinière des cadres de la marine. Nous avons gardé pour la fin, enfin pas tout à la fin, le plus grand marin de l'ordre, ce fut certainement Pierre-André de Suffren ou de Suffren. Je vous rappelle cette date, 1729-1788. Imposant et insolent, le bailli ne cessa de faire des va-et-vient entre la royale et la religion. Conquérant tous les grades dans les deux, il commença par entrer garde-marine en 1748. L'année suivante, il commença ses caravanes. 5 ans plus tard, il regagna la France et les vaisseaux du roi, puis il retourna à Malte. En 1770, lors de l'attaque de Tunis par les Français, des galères de l'ordre les appuyèrent en renfort. Parmi elles, la Saint-Nicolas, ou selon certains auteurs, la Saint-Antoine, était commandée par Suffren. On remarqua sa conduite et le roi de France demanda au grand maître de le lui prêter. Il retourna donc dans la royale, cette fois-ci avec le grade ou l'emploi de capitaine de vaisseau. On ses compagnons dans l'Atlantique Sud puis dans l'océan Indien, en 80 et 80 dont sont connus. Doué d'un caractère terrible, débraillé, affichant son mépris pour l'étiquette et les décorums, il n'y aura pas de plus redoutable loup des mers, dit de lui Clérien Langel. Il fut promu vice-amiral par Louis XVI, qui lui donna aussi l'ordre de Saint-Esprit, ce qui n'était jamais arrivé à un chevalier de Malte. De l'autre côté, il fut nommé bailli par le grand maître, mais il ne sera jamais maréchal comme Tourville qu'il admirait. Et l'amiral Castex devait dire de lui qu'avec Ruyter et Nelson, il faisait partie des trois noms immortels qui jalonnaient l'histoire de la marine. Enfin, nous sommes bien d'accord de toute façon. Il mourut en décembre 88, vraisemblablement emporté par une crise cardiaque. Maintenant, un dernier propos, les dernières galères. La Royale supprima les galères en 1748 et la religion n'en eut pas le temps. Le rôle des galères de la religion n'était pas seulement politique, il était aussi économique. Et à telle enseigne qu'un gentilhomme languedocien calcula en 1790 que la France évitait tous les ans, grâce aux croisières de Malte, un armement de 6 vaisseaux qui devaient assurer la libre navigation du golfe de Lyon. En cas de guerre avec les barbaresques, le roi serait forcé d'armer 6 vaisseaux. Malte maintint l'indépendance dans la Méditerranée, il est pour la France un port et une barrière, affirmait-il. Cette barrière-là, la Convention, qui la mina à coup de spoliation, le directoire la fit sauter. Mais les temps avaient changé. Après avoir pris Malte, Bonaparte s'empara de 2 vaisseaux de 64 canons, d'une frégate et de 3 galères. 4, dit Raymond Nonaguet. Tous à quai. L'une fut emmenée comme transport de matériel par l'escadre de Bruet, et 3 autres servirent de bois de chauffage aux troupes du général Vaubois. Les révolutionnaires avaient une courte vue. Les galères de la religion ayant disparu, les navires de commerce furent à nouveau la proie des barbaresques, comme les côtes européennes de cette partie de la Méditerranée furent à nouveau ratiées, ce qui finalement conduisit à la prise d'Alger en 1830. Oui, car la puissance de l'ordre ne se mesurait pas en tonneaux, comme de simples navires, car à peine un siècle plus tard, il retrouvait sa vocation originale. Son rayonnement ne cessera de grandir au service des malades. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la conférence donnée par le capitaine de corvette de réserve Bertrand Gallimard Flavigny devant l'ACORAM, Association des officiers de réserve de la Marine nationale. Les émissions de Bertrand Gallimard Flavigny sur la bibliophilie, intitulée Le bibliologue, sont toutes disponibles dans la médiathèque de Canal Académie, ainsi que l'émission Un jour dans l'histoire, dans laquelle, interviewé par Christophe Dickès, Bertrand Gallimard Flavigny relatait l'histoire de la fondation des Chevaliers de Malte.